Radio Campus, vous écoutez Pantarouche, émission politique de 18h à 19h avec Lise, Claire et Clément au micro et aux manettes. Il n'est pas 19h, mais bien 18h, 18h05 par là pour ceux qui ont raté l'information. Nous avons changé d'heure. Parlons changement. Pas de changement d'heure, mais plutôt de changement climatique. Le dernier rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est sorti. Et tout comme l'année dernière et les années précédentes, celui-ci est catastrophique. Ce rapport indique que le changement climatique se passe maintenant, il s'empire, et il est plus que jamais évident que la cause est humaine. La planète se réchauffe, l'élévation du niveau de la mer s'est accélérée, le taux de recul de la glace dans l'Antarctique a doublé, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires est plus rapide et les océans s'acidifient. Au niveau humain, cela signifie de gros problèmes d'approvisionnement en eau, risque d'inondation élevé, diminution des rendements agricoles par des sécheresses prolongées ou des inondations. Donc ce rapport explique que si on prend des vraies mesures, donc la température pourrait peut-être augmenter que de 2 degrés et les conséquences ne seront que catastrophiques. Si on ne fait rien, la température augmentera bien plus et là, ça sera pire que tout. Ce qui est étrange, c'est que la plupart des gens ont l'air de penser que les gouvernements, armés de leurs scientifiques, vont prendre les choses en main avant les véritables catastrophes. En fait, c'est fou ça, de penser que les gouvernements qui ont détruit l'Afrique avec leur FMI et leur économie de marché auraient des scrupules à détruire cette fois ce continent de manière écologique. Car non seulement ils ont détruit l'économie de ces pays, ils y ont mis des dictateurs pour avoir la main mise sur l'uranium et le pétrole, ils y laissent développer des guerres pour pouvoir vendre leur production d'armes, mais en plus ils ont mis en place des camps de rétention pour les hommes et les femmes qui n'ont plus d'avenir dans ces pays et qui quittent leur maison dans l'espoir de trouver une vie meilleure ailleurs. Des camps, des endroits pires que des prisons où les humains ne sont plus considérés comme des hommes. Les droits de l'homme piétinés. Un homme pauvre de mauvaise nationalité n'est rien. Et ces camps ne sont pas l'œuvre de méchants dictateurs, non, non. Les camps libyens, par exemple, sont le résultat d'accords entre l'Europe et la Libye pour empêcher les Africains de rejoindre l'Europe, l'espace Schengen. L'Australie a elle aussi ses propres camps. Oui, face à la pauvreté, les grandes puissances ont une solution. Donc l'hypocrisie. Et maintenant, vous voudriez croire que ces mêmes grandes puissances vont développer une conscience face aux problèmes écologiques, qu'ils vont prendre les choses en main. Les premiers touchés par ce changement climatique sont évidemment les pauvres, qui ne peuvent pas quitter leur pays, qui disparaissent sous l'eau, qui ne peuvent pas acheter la nourriture trop chère, qui n'ont plus accès à l'eau. Les questions écologiques se résument en une question. Est-ce que nos grandes puissances ont quelques intérêts financiers à ne pas détruire la vie des gens? Alors aujourd'hui sur Panthère Rouge, on revient sur le mouvement de la place Taskin avec un Turc d'Istanbul qui partage avec nous ses moments forts. Et puis Clément nous a préparé une partie culture avec le livre « Comment j'ai cessé d'être juif » de, alors je vais très mal le dire, Shlomo Sand.
عصفات رياح في البحر وتهول السفر والنفس شهيقة غزلات الزايخة وزار وتخبل الصبر عقدة رقيقة شكون أسيدي مرحبا أنا لهوة
وكل شي عندي
الريح من المليح
بغات الدايخات بات في كل خطوات طيح وتنود راها معمدة
تهجي في الناس
في دروب هاي جاب تتبلى بكلام ما يشفي لا جار لا ديار
كلهيب النار
القادية عوافي مألفة في السر الخات سمومها تبان عاد شعيلة
قدادات عوافي من قليل نايدة عرار عاد شعيلة ضوار الليل بالخليل الحال كظلامه من عالف
sur Radio Campus, vous écoutez Panthère Rouge jusqu'à 19h. Bonsoir Lise.
Bonsoir, bonsoir Clément.
Alors Lise, tu vas nous parler de la place Taksim ce soir.
Voilà, je reviens sur la place Taksim.
Alors, c'est rigolo de connaître comme ça les places à travers le monde, entre la place réelle de Madrid ou la place Taksim d'Istanbul. Ça fait un peu de tourisme. Bref, tout le monde connaît la place Taksim depuis quelques temps. Et pourquoi ? Parce que elle fut le lieu d'affrontement entre habitants d'Istanbul et forces de l'ordre qui surprirent tout le monde, et en premier lieu les Turcs eux-mêmes. Ça a duré un mois et demi à se demander ce qui a rendu les Turcs aussi indomptables. Pour rappeler un peu le contexte, depuis le coup d'État en 1980, à l'exception du mouvement kurde, l'opposition sociale en Turquie était très faible et ce pays était véritablement, surtout depuis l'arrivée du gouvernement AKP, un paradis néolibéral. Donc AKP, ce parti, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un parti néolibéral dont la locomotive est le secteur de la construction. Ça explique que les événements aient démarré juste à cause de la destruction d'un parc. C'était comme le symbole de toute la politique, surtout que le parc en question était un lieu de rassemblement de manifs, un lieu central et populaire, qui devait être transformé en un lieu presque symbole du néolibéralisme, un centre commercial. Autre caractéristique importante du parti, l'AKP est extrêmement autoritaire et a construit un État véritablement policier. L'AKP est aussi un parti bien marqué par une certaine vision de l'islam, un parti conservateur. Ainsi, depuis 2011, la liberté d'expression, la liberté de la presse, y compris télévisuelle et sur Internet, ainsi que la liberté de réunion, ont été restreintes. Le droit à l'avortement et le droit à la commercialisation d'alcool ont également été réduits. Les parlementaires du parti au pouvoir se sont opposés à l'extension des droits des LGBT. Voilà. J'ai fini pour la partie rébarbatif. Je vous propose maintenant d'écouter Moltojan Chan. Il est turc, il est habitant d'Istanbul et il raconte comment a commencé ce mouvement.
Après le projet de destruction du parc Gezi, Promenade Gezi en fait, quelques militants écologistes qui sont sensibles sur les problèmes urbanistes ont occupé le parc pour barrer, pour faire un obstacle à la destruction du parc. Et après ça, l'agression policière, la répression très violente de police a commencé. C'est le déclenchement des événements. Après quelques scènes qui sont diffusées par la télévision, radio, etc., des médias, la colère est éclatée. Et tout le monde, dans un jour, dans un vendredi, tout le monde a décidé, personnellement, ce n'est pas un appel central, etc. Tout le monde a décidé personnellement. Et quelques groupes ont fait des appels. Mais c'est une décision personnelle. Tout le monde va à Taksim. C'est un événement inattendu partout, aussi par les participants. Et c'est généralement, on va à Taksim jusqu'à la place, etc. Mais après l'attaque de police, on disperse. Mais ce jour-là, on dépasse la peur. Et on reste. Et tout le monde reste. Et je peux dire que le fer de lance, c'était le groupe politique d'extrême gauche. Mais en même temps, le groupe de fans de foot, qui sont assez expérimentés avec la violence de police, etc. Et le premier soir, on reste. Ouais. On reste, police reste, on reste, on fait des barricades, etc. sur la rue d'Istiklal. Et il y a un conflit très violent. Et ça continue jusqu'à la matin, dans toutes les rues d'Istiklal, de Taksim. Et vers le matin, la police tire à la place. À la place de Taksim, des rues, et ils retirent de la place à la place de Taksim. Et en fait, tout le monde a écouté qu'est-ce qui se passait, malgré la censure des médias. Tout le monde a écouté par téléphone, etc. Et millions de personnes viennent à Taksim. On attaque à la place et police doit retirer. Et après l'occupation de la place, de la principale place, de la principale ville de la Turquie a commencé et ça continue 15 jours, deux semaines, grosso modo, sans état, sans police. une sorte d'auto-organisation contre la violence de police. Et les médecins organisent les hôpitaux temporaires, les revirs, etc. Les avocats s'organisent pour défendre les arrestés. Dans tous les sens de police, il y a des avocats, ils sont très coordonnés, etc. Et le peuple soutient en tapant les casseroles et les portes de domicile. Et c'était aussi une soutenance logistique. Hein. Ils donnent des médecins contre le gaz lacrymogène, de lait, de masques de gaz. Ils ouvrent la maison pour toilettes, etc., etc. Ils partagent leur repas avec les manifestants. Oui, les premiers 3 jours, c'était très, très violent. C'était très violent, comme en guerre civile. Après l'occupation par des participants de Place de Taksim, on attaque à Beşiktaş. Beşiktaş est le quartier qui est l'office de Premier ministre. L'office de Premier ministre est là. Et à Beşiktaş, il y a beaucoup de conflits, très violents. Oui, c'est ça, ça commence comme ça. Et après, dans toutes les villes de la Turquie, les conflits, les contestations, généralement très violents, entre la police et les manifestants, continuaient généralement 15 jours.
Et oui, et à côté de ces aspects de solidarité, de fraternité, il y a aussi la violence. En tout, il y a eu 6 morts. Ça peut vous sembler peu vu l'ampleur des rassemblements. On dénombre plus de 100 000 protestataires à Istanbul. Je précise d'ailleurs que Moltolcan voulait dire milliers, même si vous avez peut-être cru entendre millions, mais bon, vous n'êtes pas idiot. Donc 6 morts. Et pour les occupants de la place Taksim, c'était révoltant. Comment une occupation pacifiste pour préserver un espace vert pouvait conduire à une telle répression? Comment d'ailleurs les policiers ont-ils pu tuer à coups de grenades lacrymogènes? Car leurs armes étaient principalement des fusils à grenades lacrymo qu'ils lançaient directement sur les manifestants. Ainsi, beaucoup ont perdu la vue. Et en tout, 4000 manifestants ont été blessés et on dénombre 300 000 grenades lacrymogènes utilisées en 2 semaines. Mais à cette utilisation exagérée de lacrymo s'oppose une créativité débordante.
Le mouvement a déjà son propre langue, propre littérature, propre art. C'est un art de rue. Il y a des graffitis, il y a des slogans très créatifs, humoristique, et il y a des chansons aussi. Le plus populaire, c'est une chanson, un slogan, chanson en fait qui vient des tribunes de foot. C'est sık bakalım, ça commence comme ça. Mais si on peut traduire comme ça, tire alors, du gaz lacrymo, tire alors, enlève ton casque, laisse ton matraque, et on peut voir ce qui est brave alors. Dans toutes les manifestations, dans toutes les actions massives, les masses chantent ce slogan. Oui, on peut dire. Il y a beaucoup de slogans sur les murs, ce sont vraiment humoristiques. Il y a beaucoup d'exemples, mais de temps en temps, c'est introduisable. Parce qu'il y a des références sur l'atmosphère politique, sur la Turquie, etc. Mais je peux dire, c'est... Après la diminution de désavouements violents, la police a commencé à effacer les graffitis par la peinture grise. C'est une peinture standard. Et quelqu'un a écrit sur le peinture grise jusqu'à la fin de votre peinture grise. c'est très humoristique. Et il y a des slogans aussi. Assez politique, connu, mais généralement c'est une vraie liberté d'expression et de cette liberté d'expression on connaît la créativité des masses. Hein. On peut voir la créativité de masse.
Cela donne le ton de ce mouvement. Pour le fond, la revendication de départ était le refus de la destruction d'un parc. Puis très vite, ça a été le refus de la répression, de l'usage de la lacrymo. Dans la rue, les slogans étaient souvent la démission du Premier ministre, mais on ne peut pas dire que c'était réellement une revendication du mouvement de solidarité de Taksim. Et cela fait réfléchir. Enfin, moi, je pense à ce bon vieux Trotsky qui se cassait la tête à faire un programme de transition pour, en gros, pousser les gens à commencer à se révolter pour, au final, refuser le capitalisme. Et bon, bref, dans son programme, il n'y avait pas « défendre les jardins publics ». Et en même temps, pas besoin de programme de transition en Turquie, ni en Égypte, ni en Tunisie, ni en Syrie. Enfin, pour Moltojan, ce mouvement est l'ouverture d'une nouvelle phase politique. Et en effet, si personne n'imaginait s'opposer à ce point au gouvernement il y a 6 mois, aujourd'hui cela devient envisageable. Des manifestations ont encore eu lieu en septembre pour demander justice vis-à-vis des jeunes manifestants tués par la police. L'État turc que l'on trouvait calme et prospère il n'y a pas si longtemps nous rappelle que le fascisme est une face du capitalisme. Celui-ci peut arborer des images de démocratie. Quand son autorité est remise en cause, la répression est sans limite. Mais le peuple turc, comme ces temps-ci d'autres peuples, nous montre aussi que leur bravoure, elle aussi, est elle aussi immense et qu'on ne peut deviner par avance qui du peuple ou de l'État gagnera dans de telles confrontations. Ce que résume à merveille le slogan turc que nous a rappelé notre ami turc. Tire alors du gaz lacrymo, tire alors. Enlève ton casque, pose ta matraque et on verra bien qui est brave alors. Et alors normalement, si la magie a lieu, vous pouvez entendre, on le mettra tout à l'heure.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vous écoutez Radio Campus, émission Panthère Rouge, et on passe à une rubrique littéraire avec Clément. Clément qui nous a rapporté deux livres, là, d'un auteur qui s'appelle Shlomo Sand. C'est comme ça qu'on dit ?
Tout à fait, on dit Shlomo Sand.
Shlomo Sand, il est quoi ?
Shlomo Sand, il est juif et israélien.
Il est juif ? Parce que là, sur le livre, c'est pas écrit qu'il est juif.
Ben, c'est écrit « Comment j'ai cessé d'être juif » et c'est un des deux livres que je vais présenter. Enfin, disons que là, on va plutôt présenter Shlomo Sand et à travers les deux livres que j'ai entre mes mains. Donc, comment j'ai cessé d'être juif et comment le peuple juif fut inventé. Comment le peuple juif fut inventé, c'est le plus gros des deux, hein, clairement. C'est une sorte de Bible bis, disons. En plus d'être juif et israélien, Shlomo Sand est aussi historien, professeur à l'université de Tel Aviv. Et lui, il a une théorie sur ce que l'on appelle le peuple juif. C'est-à-dire que souvent, on considère les juifs comme étant un peuple unique et qui a subi l'exil en l'an 70 après Jésus-Christ et donc qui a dû quitter la Judée et la Samarie pour aller dans les goyim, les pays étrangers. Et donc c'est pour ça qu'on dit par exemple quelqu'un qui n'est pas juif c'est un goy. Et Shlomo Sand lui il dit en fait il n'y a pas un peuple unique et il n'y a pas eu d'exil. C'est sa théorie. Et
c'est vrai que l'histoire du peuple juif, c'est aussi une vision religieuse. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Bah, et lui, il a peut-être une vision plus d'historien. Quoi.
Voilà. Disons que c'est sûr que le fait d'être juif, ça se rapporte quand même à une religion et qui est le judaïsme et qui se base sur l'Ancien Testament. Et lui, disons qu'il voit les choses d'une manière moins religieuse et plus historique, en tout cas selon sa vision à lui, parce que c'est quelqu'un qui est très contesté, que ce soit par les juifs du monde entier ou par bon nombre d'Israéliens. Mais toujours est-il que lui, sa théorie, c'est qu'il n'y a pas eu d'exil et que déjà parce que les Romains n'avaient pas l'habitude de chasser les gens sur les territoires qu'ils conquérissaient, ils avaient plutôt tendance à simplement les occuper et laisser les gens sur ce territoire-là, mais qu'ils soient redevables un petit peu de l'Empire romain. Et puis il dit de toute façon, ils étaient tellement peu nombreux que c'est impossible que si peu de gens aient pu se disperser à autant d'endroits et soient quelque part aussi nombreux. Et donc il dit en fait la plupart de ces, enfin qu'en fait les juifs de, que ce soit les juifs séfarades, donc les juifs de plutôt d'Afrique du Nord, disons, enfin séfarade en fait ça veut dire Espagne en hébreu, et donc c'est les juifs qui ont été chassés d'Espagne par Isabelle la Catholique. Donc que ce soit les séfarades, les ashkénazes, Ashkénazes c'est Allemagne, donc par extension on appelle ashkénazes les yiddish aussi, c'est-à-dire tous les juifs d'Europe de l'Est jusqu'en Russie. Il dit que ces gens-là principalement ont simplement été convertis au judaïsme et ne sont pas les descendants des premiers monothéistes de Judée. Il dit que génétiquement ceux qui sont le plus proches des juifs, des premiers juifs, c'est les Palestiniens d'aujourd'hui.
Donc
on peut comprendre
que ça plaise pas.
Voilà, on peut comprendre que ce soit quelqu'un d'assez critiqué, notamment en Israël.
Et dans son autre livre, Comment j'ai cessé d'être juif, c'est quoi le propos ?
Et le propos, c'est de dire, alors je vais lire ce qu'il y a derrière sur la quatrième de couverture, ce qui résume assez bien le livre, hein, forcément. Supportant mal que les lois israéliennes m'imposent l'appartenance à une ethnie fictive, parce que c'est ce qui montre dans comment le peuple juif fut inventé. Donc supportant mal que les lois israéliennes m'imposent l'appartenance à une ethnie fictive, supportant encore plus mal d'apparaître auprès du reste du monde comme membre d'un club d'élus, je souhaite démissionner et cesser de me considérer comme juif. Quand il dit supportant mal que les lois israéliennes m'imposent l'appartenance, etc., c'est parce qu'il faut savoir qu'en Israël, la religion, c'est quelque chose qui est marqué sur la carte d'identité. En fait, Israël est un pays où on distingue l'État et la nation. C'est-à-dire que après 67, lorsque Israël a conquis ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires occupés palestiniens, ils se sont trouvés dans une situation un petit peu embarrassante où il y avait des gens qui n'ont pas voulu partir. On en avait parlé dans une émission précédente.
Avec Julien Salon, voilà. D'ailleurs, qui va venir à Clermont pour parler d'Israël, un état d'apartheid. Il pose la question.
Voilà, et Julien Salon qui vient de terminer sa thèse. Et donc on attend avec impatience son arrivée à Clermont-Ferrand.
Et donc lui, il va développer cette partie, je pense.
Ouais. Et donc, toujours est-il qu'en Israël, il n'y a pas que des juifs, il y a des chrétiens, des musulmans, des druzes. Et que suivant la religion à laquelle on appartient, on n'a pas les mêmes droits. Et d'accord. C'est pour ça que, en fait, quand Shlomo Sand dit comment j'ai cessé d'être juif, on pourrait ajouter comment j'ai cessé d'être juif en Israël, enfin comment j'ai cessé d'être juif israélien.
Ouais, c'est une partie importante en fait, c'est vraiment le contexte qui impose.
Voilà, c'est parce que un juif de France, d'Amérique ou d'Allemagne reste un citoyen comme les autres. Mais c'est pas le cas en Israël, c'est-à-dire que on a des formes de sous-citoyenneté et puis il met l'accent sur le fait que aussi la société israélienne est une société extrêmement hiérarchisée par l'appartenance. Donc on parlait tout à l'heure Ashkenaz, Sépharade, il y a aussi les Yéménites, donc ceux qui viennent du Yémen, il y a aussi bien ce qu'on appelle les falachas. Alors falachas, c'est un terme un petit peu péjoratif, mais disons que c'est les juifs d'Éthiopie. Tous ces gens-là n'ont pas la même posture sociale de base, disons, bien qu'ils soient marqués comme juifs dans leur... Ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus insidieux. Hein. Il explique aussi le fait que les séfarades, donc ceux qui arrivaient de Tunisie, du Maroc... sont souvent les plus hostiles aux Arabes parce que on avait ici un moment, alors je sais plus qui c'est exactement, mais bon, c'est un des fondateurs du sionisme qui est donc ashkénaze et qui dit le juif marocain a pris beaucoup du marocain, sous-entendu
c'est un peu raciste encore une fois.
Voilà, c'est encore un peu raciste, mais disons que il explique que ces juifs qui venaient du Maroc, de Tunisie, vu que quand ils sont arrivés, ils étaient un petit peu confondus avec des Arabes parce qu'ils étaient un petit peu bonzés aussi et que machin, pour se distinguer du fait d'être arabe, c'était souvent les plus racistes.
D'accord. C'est un livre qui se lit bien.
Alors, Comment j'ai cessé d'être juif, c'est un livre qui se lit très bien, qui se lit très facilement. Ensuite, Comment le peuple juif fut inventé, c'est un livre qui est plus long. Qui est plus dense. Comment le peuple juif fut inventé, c'est un petit peu, la base de Shlomo Sand, et du coup, c'est beaucoup plus dense.
Et est-ce que la plume est légère, genre, est-ce qu'il y a des blagues juives dedans ?
Il n'y a pas des blagues juives, à proprement parler, mais il parle de situations... De choses qui donnent lieu à des situations assez comiques, comme par exemple, il sort du repas de Pessah, donc c'est la Pâque juive, c'est quand les juifs sont sortis d'Égypte, sont sortis d'esclavage en Égypte, pour punir les Égyptiens un peu, Dieu a tué tous les premiers-nés des familles des Égyptiens. Et donc il sort du repas et sa fille lui dit, qui est toute petite, mais papa, Dieu, il a vraiment fait ça. Enfin,
c'est pas juste.
C'est pas sympa, quoi. et il explique l'embarras dans lequel il est quand il doit expliquer ça à sa fille et qu'il finit plus ou moins par lui mentir. Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi une forme d'introspection sur lui-même où il dit bah j'ai eu une période où voilà j'étais un peu comme les autres et j'étais mais finalement j'ai réalisé. Il dit aussi, il parle, il y a un truc qui est intéressant aussi, il parle des juifs, du concept du juif laïque, qui est, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent mais qui en fait est très surprenant parce qu'on dit jamais chrétien laïque, musulman laïque, c'est non. On le dit pas, mais juif laïque, c'est quelque chose qui existe, enfin qui existe. C'est quelque chose qu'on entend et qui est
juif athée.
Ouais, juif laïque, juif athée. Et donc c'est et les pères du sionisme sont souvent des gens juifs athées quoi. C'était souvent aussi une manière de s'émanciper du poids familial et de s'engager politiquement dans un combat.
Ouais.
Donc, il parle aussi, donc des juifs. Enfin, il parle de plein de choses très intéressantes et moi, je conseille cette lecture. Et...
Donc, rappelons les titres. Comment le peuple juif fut inventé, chez Champs Essai, un gros bouquin.
Voilà. Et comment j'ai cessé d'être juif, qui est aussi extrêmement intéressant. Et aussi, très rapidement, il insiste aussi pas mal sur le lien qu'il y a entre antisémitisme et sionisme, et de dire qu'en gros, c'est un petit peu les deux faces d'une même pièce. Et il cite un moment Bernard Lazare, qui est un des fondateurs du sionisme, qui dit eh ben, le seul point avec lequel je suis d'accord avec les antisémites, c'est de dire que les juifs sont une race à part entière. Donc voilà, c'est très... Enfin, c'est très intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié lire Shlomo Sand.
Bah, merci pour ce conseil de lecture. Et...
Biber gazı, şopu sopası, bize sökme zoru baskısı. Savaşıyoruz yıkılacak sahiplik nasıl? Biber gazı, jopu sopası, bize sökmez zorun baskısı. Direniyoruz, savaşıyoruz yıkılacak sahiplik nasıl? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, copunu bırak, delikanlı kim bakalım. Varsa cesaret, çık karşımıza, sen gitmeden bitmez bu kavga. Dur kaçma iki laf edelim, bir dozerlik cesaretin. Varsa cesaret çık karşımıza, sen gitmeden bitmez bu kavga. Dur kaçma iki laf edelim, bir dozerlik cesaretin. Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim?
Sık bakalım, voilà, c'était la musique qu'on voulait écouter tout à l'heure. Donc les manifestants turcs qui disent « Vas-y, tire alors, le gaz lacrymo, tire alors, enlève ton casque, pose ta matraque, on verra bien qui est le plus brave alors !»
Et on n'a toujours pas la... Si, on a la réponse un peu quand même.
Bah c'est nous.
Bah c'est nous les plus braves. La dernière fois, on avait parlé de...
Des expulsés.
Voilà, des expulsés et de cette affaire avec le 115. On en a aussi parlé dans le coupe-gorge. Je pense que plus on est...
Une super émission à Campus,
voilà,
le vendredi.
Plus on est nombreux à parler de ça, mieux c'est. Et donc le combat continue.
Et on va encore en reparler, je suis désolée, voilà, mais
on en remet une couche.
C'est pas de notre faute, c'est à cause de Manuel Valls, puisque depuis, avec l'aval de son gouvernement, hein, il a choisi le rhum comme bouc émissaire. Le rhum est partout, c'est le problème majeur des Français et il faut s'en débarrasser. Un remake minable de Mein Kampf, surtout qu'à Clermont, les rhums, on en a rencontré pas mal et qui ne sont plutôt sympathiques à venir défendre en France, avec d'autres sans logis, un droit fondamental qui est le droit au logement. Quant à l'affaire Leonarda, l'expulsion de cette lycéenne en plein voyage scolaire, cela a provoqué un mouvement superbe de lycéens grévistes dans plusieurs villes, notamment Paris. La jeunesse est clairement opposée à cette politique raciste. Elle prend des forces, c'est les vacances, mais il y aura une suite à tout ça. Une suite, il y en a eu une à Clermont, jeudi dernier. RESF a appelé à une nouvelle manifestation. Il y avait 200 personnes à peu près, dont moi et Clément. Donc Clément, c'est pas notre Clément, c'en est un autre. Il est membre de l'Hôtel des Villes et il a bien voulu répondre à mon micro.
T'as suivi ce qui s'est passé cette semaine là, qui fait qu'il y a cette mobilisation aujourd'hui?
J'ai suivi le fait qu'il y a eu de nombreuses expulsions.
Qui c'est qui a été expulsé?
Des familles kosovardes d'origine rome.
C'est-à-dire combien de personnes?
Il y a eu deux familles de trois. Et il y a eu deux célibataires qui étaient en train de travailler bénévolement aux mains ouvertes, qui ont été récupérés aussi.
C'était des gens qui étaient là depuis longtemps ou...
Ça dépend, c'est des personnes qui sont en demande de titre de séjour, donc ça peut durer des personnes entre 3 mois et 1 an, quoi. Ça dépend des situations.
C'était des gens qui étaient à jeu au début de la rentrée ou...
C'est des gens qui ont été victimes de ça, qui sont restés sur le campement de Jaude. Je ne les connais pas toutes, donc je ne saurais pas dire si toutes étaient à Jaude. Mais il y avait des familles qui étaient à Jaude. Et voilà, c'est des familles... Il y en a certains qui sont en centre de rétention administratif. Voilà, c'est des familles qui sont dans le même cas de figure que Leonarda, donc l'affaire qui a fait si grand bruit...
Parmi les raisons de ce rassemblement, il y a les expulsions, mais il y a aussi le problème du logement qui est toujours pas réglé.
Non, en effet, le rassemblement qui avait eu place de Jaude, au début, c'était à partir du 2 septembre, c'était pour justement faire pression sur l'État pour signifier qu'il y avait un énorme problème au niveau du logement, parce que donc il y a des gens qui sont dans des hôtels miteux, il y a des gens qui sont dans les Algeco qu'on appelle les bungalows. Il y a des gens qui sont hébergés dans des conditions désastreuses. Pour ceux qui sont hébergés, parce qu'il y en a un paquet qui sont à la rue, notamment les célibataires, les Roms, les personnes d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, après cette mobilisation-là, eh bien, il y a toujours les mêmes problèmes. Là, il y a des gens qui sont en hôtel, qui à partir de lundi vont se retrouver à la rue. À peu près une trentaine de personnes, au minimum, mais ça sera peut-être plus. Donc ce problème-là n'a toujours pas été réglé.
Il n'y a rien qui a été fait, en fait, il y a eu des effets d'annonce comme quoi la préfecture allait donner de l'argent pour justement le logement.
Non, il y a... Si la préfecture a donné de l'argent, en tout cas, ça ne s'est pas suivi d'effet direct au niveau de cette situation-là, parce que voilà, il y a toujours des personnes qui sont à la rue, qui sont hébergées grâce à la solidarité militante de personnes individuelles, dans des squats, dans des... chez des particuliers, et à ce niveau-là, il n'y a rien qui a fonctionné, quoi.
L'émission Panthère Rouge touche à sa fin, mais on se retrouve le 24 novembre et d'ici là, voici quelques rendez-vous importants.
Demain, le matin, un rendez-vous est donné par RESF devant la gare, une trentaine de personnes au moins est à la rue. RESF appelle à un rassemblement devant la gare à 10h le matin, je répète.
Demain matin donc, et demain soir, si vous avez un toit et une télé, on vous conseille le documentaire Le Tarnac est dans le pré à 23h20 sur France 3. Cela montre Notre-Dame-des-Landes, le symbole d'un projet inutile et aussi d'opposition radicale entre deux modèles de développement et de croissance.
Notre-Dame-des-Landes, on en avait parlé il y a un an avec Clément de l'Hôtel des Villes, le Clément que l'on remercie d'ailleurs pour l'interview accordée pendant la manif, et Clément que vous retrouverez sûrement si vous allez à la soirée de soutien à la ZAD. Notez la date, 9 novembre, le soutien à la ZAD est important car la mobilisation est plus dure l'hiver alors qu'il y a des risques d'affrontement, 9 novembre donc.
Dernière date, jeudi 14 novembre, Julien Salling vient parler d'Israël, un état d'apartheid. C'est une conférence organisée par Le Temps des Cerises. Ça se passe à l'UFR Lettres à 20h, amphi 2, voilà, jeudi 14 novembre.
Donc cette émission a été réalisée par Lise, Claire et Clément, et on dit un
grand bravo.
Un grand bravo à Claire.
À Claire qui a fait à la fois animation et technique.
Ouais, merci.
Bah, je t'en prie. Au même créneau, dans 2 semaines, vous retrouverez Greenwatching et nous dans 4 semaines. C'est long, mais vous pouvez toujours nous réécouter sur le blog audioblog.arteradio.com/panterrouge ou nous écrire à l'adresse panterrouge93.3@gmail.com.
À dans 4 semaines. Et d'ici là, surtout,
surtout,
ne lâchez rien.